Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1. Très bon début de journée à tous.
Maintenant, il y en a qui sont au bord de la crise de nerfs, hein, tellement c'est éprouvant.
L'épisode Cévenol a laissé des traces de violents orages. On secoué hier le sud-est. On fait le point avec Éric Agrignier, responsable de la communication des sapeurs-pompiers du Gard, dès le début de ce journal.
Deux ministres, des élus locaux et des syndicats au chevet des salariés de Bridgestone demain pour faire plier la direction japonaise.
La politique a vite repris le dessus après la mort de la doyenne progressiste de la Cour suprême. Donald Trump promet un nom rapidement, une femme probablement.
Et puis nous ferons plus ample connaissance avec le jeune Pogacar, le jeune Slovène qui a pris sa chance sur le contre-la-montre. C'est lui qui va gagner le Tour de France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et Météo France a donc levé toutes ses vigilances, mais l'épisode Cévenol d'hier a laissé des traces.
Dans le Gard notamment, où il a fallu évacuer des centaines de blessés et où les dégâts sont importants. Plus de 650 pompiers étaient mobilisés, appuyés par 5 hélicoptères. Bonjour Éric Agrignier et merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes responsable de la communication des sapeurs-pompiers dans le Gard. Alors d'abord, comment s'est déroulée votre nuit ?
Bonjour. Bah écoutez, nous sommes depuis 3h du matin retombés sur un niveau de vigilance jaune inondation sur l'ensemble du département du Gard. Le début de nuit a été quand même marqué par un passage pluvieux orageux avec une activité électrique relativement importante. Toutefois, celle-ci n'a pas généré d'opération marquante particulière et le bilan humain reste identique à celui de la fin de journée d'hier et reste quand même très important, hein. Donc je le rappelle, si vous permettez, donc deux grands secteurs ont été touchés. Le secteur, ce qu'on appelle la Vallée Borgne, avec principalement les communes d'Anduze et de Saint-Jean-du-Gard pour les plus connus, avec 30 sauvetages réalisés dans des conditions périlleuses, 6 par hélicoptère de la sécurité civile, 24 autres sauvetages par les moyens terrestres et notamment nos groupes de sauveteurs en eau vive, et plus de 220 mises en sécurité ou déplacements de population à titre préventif ou curatif. Et sur l'autre versant, le secteur Vigan et Pondéro-Valrogue, avec la commune de Valrogue notamment particulièrement impactée par la violence des pluies et des orages, avec sur ce secteur-là 16 sauvetages par les groupes de sauveteurs en eau vive et les moyens terrestres, et là aussi plus de 200 personnes mises en sécurité.
Et une personne qui est toujours disparue ce matin ?
Alors effectivement, sur ce secteur-là, une personne donc a été prise par les eaux à l'intérieur de son véhicule et qui est toujours portée disparue. Le véhicule a été retrouvé en amont du cours d'eau, mais malheureusement, la conductrice n'est toujours pas retrouvée au moment où l'on se parle.
Comment vont se dérouler les prochaines heures ?
Alors là, on est dans une deuxième phase, hein, qu'on appelle dans ce type de gestion de crise. Donc la phase critique des sauvetages et de mise en sécurité est terminée et nous rentrons dans une phase progressivement de retour à la vie normale. Ça s'articule avec, bien sûr, des reconnaissances complètes qui vont se poursuivre aujourd'hui parce qu'il y a des secteurs avec la descente des eaux qui vont être accessibles qui ne l'étaient pas hier. Dès 7h30, nous avons deux hélicoptères de la sécurité civile qui vont être déployés sur les deux secteurs pour des reconnaissances aériennes et qui vont nous permettre d'affiner le dispositif de secours d'aujourd'hui. Et bien sûr, la mise en place des actions de soutien aux communes pour dégager les voies principales et les nettoyer. Et bien sûr, le soutien à la population avec le début des épuisements d'eau dans les habitations, mais également le transport d'eau potable dans les endroits où l'eau potable a été malheureusement détruite.
Merci Éric Agrignier, vous êtes responsable de la communication des sapeurs-pompiers du Gard. Merci d'être intervenu ce matin sur Europe 1.
Et signalons que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Barbara Pompili, la ministre de l'Écologie, sont attendus à Saint-Jean-du-Gard dans la journée. Deux ministres également à Béthune, et ça sera demain pour faire le point sur la situation de l'entreprise Bridgestone.
Le groupe japonais a annoncé la fermeture du site et la suppression de 863 emplois. Et demain, donc, les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, seront sur place, aux côtés d'élus locaux et de syndicats, une sorte d'union sacrée. Le gouvernement veut tout faire pour sauver le site. Du côté des salariés, on veut y croire, mais il y a beaucoup de rancœur. Écoutez Christian Duchâteau de la CGT.
On a été traités comme des chiens, je suis désolé de le dire. Cette direction européenne, on dirait qu'ils cherchent le conflit. Nous, on ne cherche pas le conflit. On cherche la survie de l'entreprise. C'est le cœur qui parle, là. L'emploi, ici, c'est très important. On est dans une région qu'on est absolument touché par l'emploi. C'est un des taux de chômage de bassin minier les plus importants du nord de la France. Faut arrêter de tuer encore et des emplois et des fermetures d'entreprises. On peut plus tolérer ça. C'est de la violence. La violence, c'est pas nous qui est violent, c'est eux qui sont violents.
Christian Duchâteau de la CGT au micro Europe 1 de Lionel Gougelot.
Et retour sur ce sujet, bien sûr, avec Xavier Bertrand, invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1. L'économie qui paye donc le prix fort après des mois de crise sanitaire, mais certaines entreprises ont moins subi que d'autres.
C'est le cas de PSA. Son PDG s'exprime ce matin dans les colonnes du JDD. Écoutez notre confrère Rémi Dessart, c'est lui qui a mené l'entretien.
Carlos Tavares, effectivement, estime que son groupe sort mieux que ses concurrents de la crise. Il dit même que le groupe est devenu le plus rentable du monde pendant cette période. Pourquoi ? Parce que le groupe PSA a fait d'énormes efforts d'économie depuis 2014, date de son arrivée en fonction. Le groupe se porte mieux que les autres. Bien sûr, il y a eu une crise qui a affecté les ventes, mais maintenant, ses ventes redémarrent. Il enregistre une progression de ses carnets de commandes de 30%. La gamme de PSA fonctionne à merveille et donc il se prépare maintenant à un autre choc qui est celui du passage à la voiture électrique. Faire une voiture électrique demande moins de main-d'œuvre que de faire une voiture thermique, c'est comme ça. Et cette seule constatation se traduira par une conversion industrielle majeure qui, selon Carlos Tavares, entraînera de nombreuses suppressions d'emplois, à quoi s'ajoutent des restructurations industrielles très importantes. Et il dit que les gouvernements devront gérer les conséquences de cette transition.
Rémi Dessart du JDD avec Nicolas Feldman.
Un article passionnant dans lequel Carlos Tavares dit aussi qu'une voiture électrique coûte le double d'une voiture thermique et qu'il y a un lobby très très puissant de la voiture électrique qui littéralement met le pistolet sur la tempe sur les constructeurs automobiles. Et pour aider les secteurs dans le besoin, il y a toujours le plan de relance. On pense au milieu de la culture, par exemple.
2 milliards injectés pour 22 milliards de pertes en 2020, selon l'INSEE. Difficile pour ce secteur qui emploie 700 000 personnes. Rosine Bachelot était l'invitée de Wendy Bouchard dans Europe Soir hier, à l'occasion des Journées du patrimoine. Pour la ministre de la Culture, il faut transformer cette industrie et la moderniser.
Ce que nous voulons à travers le plan de France Relance, nous ne voulons pas seulement panser les plaies. Bien sûr, il faut les panser. Mais ce drame qu'a été l'épidémie de Covid, et ça a été le révélateur d'un certain nombre de choses. On l'a vu à travers une étude qui paraît tous les 10 ans sur les pratiques culturelles des Français. Oui. Les pratiques culturelles des Français changent, en particulier des jeunes, et il faut que nos grandes institutions culturelles se préparent à demain. En tout état de cause, donc faisant d'une catastrophe une opportunité.
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, invitée de Wendy Bouchard hier.
La patronne de Versailles sera notre invitée tout à l'heure à 7h40. Catherine Pégard, dans un instant, Donald Trump, très très pressé de remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée hier. On parlera des conséquences, bien sûr, politiques pour le pays.
Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
7h10, la suite du journal de Lénaïque Meunier, direction les États-Unis. La politique a vite repris le dessus après la mort de Ruth Bader Ginsburg, la doyenne progressiste de la Cour suprême.
Une place aux tractations politiques. Qui pour lui succéder ? Donald Trump va proposer un nom rapidement, dit-il, une femme probablement, pour remplacer l'icône du combat pour les droits des femmes. À un mois de l'élection présidentielle, c'est un tournant. Écoutez, Lee Pissard, elle est l'ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison-Blanche.
C'est un coup de théâtre et c'est un cataclysme politique dont on a encore du mal à mesurer les conséquences. Tout d'abord, c'est du pain béni pour Donald Trump. Ça galvanise le soutien des conservateurs, dont le rêve est potentiellement sur le point de se réaliser, c'est-à-dire 6 juges contre 3 sur la Cour suprême des États-Unis. L'hypocrisie des républicains est inouïe. Il y a 4 ans, quand Barack Obama devait remplacer un juge qui venait de décéder, il a proposé sa nomination en mars, plusieurs mois avant l'élection, et les républicains lui ont dit non, on ne confirme pas un nouveau juge dans une année électorale. Il y a aussi une ironie terriblement angoissante qui est que ce nouveau juge, si il ou elle est en place, jouera probablement un rôle dans la résolution même de l'élection qui, à force d'avoir des procès, se terminera devant la Cour suprême.
Lee Pissard, ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison-Blanche avec Caroline Baudry. Et puis aux États-Unis, toujours, les ados vont pouvoir continuer à télécharger l'application TikTok. Un petit sursis a été accordé par Donald Trump jusqu'au 27 septembre.
Oui, parce qu'on inclut deux entreprises américaines, dont Walmart. Alors évidemment, le groupe de distribution, c'est pas rien. Le Tour de France à présent, c'est la fin aujourd'hui. Un Slovène sera bien sacré, mais pas celui qu'on avait annoncé.
Oui, on a vu un vrai coup de théâtre hier lors du contre-la-montre individuel. Le jeune Pogacar, qui va avoir 22 ans demain, a détrôné son aîné Roglic. Il devient le plus jeune vainqueur du Tour depuis l'après-guerre. Alors qui est-il ? À Comenda, sa ville natale, on voit son portrait signé par l'envoyé spécial d'Europe 1, Théo Manval.
C'est pour faire comme son grand frère que Tadej Pogacar se met au vélo à l'âge de 9 ans. Adolescent à la croissance tardive, il restera pendant des années plus petit que les autres coureurs de son âge. Ce qui lui a forgé le caractère, explique son oncle, Domen.
Tout le monde lui disait qu'il était trop petit pour être cycliste. Mais ça ne l'arrêtait pas. Il se battait encore plus face aux autres. Peut-être à cause de ça. Il voulait montrer qu'il en était capable. Et je voyais dans ses yeux qu'il ferait quelque chose de ça.
Tout le monde ici a entendu l'histoire de ce recruteur qui arrive sur une course de village, voit le jeune Pogacar tout seul derrière le peloton, demande qui est ce petit gars à la peine. Mais pas du tout, il est en tête, lui répond-on, et va bientôt prendre un tour à tout le monde. Depuis, Pogacar a bien grandi, mais gardé ce mental d'attaquant et une personnalité ouvertement relaxe, explique Jaka Primozic, coureur lui-même et ami d'enfance.
Il y a 2 ans, on courait une course à Tarragone en Espagne. 2 ou 3 cols à grimper. Et il faisait très chaud, 40 degrés le matin, personne n'avait envie de manger. Lui, il s'est enfilé une pleine assiette de crêpes avec du Nutella et il nous a mis la misère sur le vélo ensuite. Il n'est pas comme les autres.
Un énergumène qui soufflera demain ses 22 bougies, plus jeune vainqueur du Tour depuis l'après-guerre. À Comenda, Théo Manval, Europe 1.
Et vous pourrez suivre l'arrivée du Tour de France en direct sur Europe 1 ce soir.
Une expo photo maintenant pour occuper votre automne si vous passez par Paris.
Les grandes expos font leur retour. Sarah Moon est au Musée d'Art Moderne. On la savait, grande photographe de mode, mais on la découvre aussi paysagiste, Diane Chenouda.
Beaucoup de photos en noir et blanc chez Sarah Moon, toujours un peu floues, comme sorties d'un rêve.
C'est ce que je préfère. Je pense que je vois mieux la lumière en noir et blanc. Il y a un langage qui est plus intérieur en noir et blanc. Et si je ferme les yeux, je vois en noir et blanc.
Des images énigmatiques, y compris dans ces clichés pour la mode.
Les femmes de la mode, elles sont, enfin je dis toujours, les héroïnes d'un film que je ne fais pas. Enfin, le vêtement leur donne le rôle. Et le fait d'avoir été mannequin, je les photographie plutôt, c'est l'envers du décor, enfin c'est avant de passer en scène.
Et puis il y a ces photos de paysages. Sarah Moon a ce don pour capter les atmosphères.
Oui, avec des fumées, les ports. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore ça. J'avais exposé à Hambourg et comme j'y étais longtemps, j'allais tous les jours au port et c'est là où le goût m'est venu. Il y a quelque chose d'éternel dans les ports, c'est toujours les mêmes constructions et on voit l'horizon, même si on ne part pas.
Et à 78 ans et après 50 ans de métier, sa passion du voyage, sa passion pour les autres et pour la photo reste intacte.
C'était Diane Chenouda.
Absolument.
Vous avez fini, les Naïcs?
Oui, j'ai fini.
Bah à tout à l'heure pour le journal de 8 heures.